bonne année, 8 janvier 2018. C'est Hélène Denis, très heureuse d'être de retour en cette journée de neige et aussi très heureuse de retrouver mon complice, je peux vous appeler comme ça, cher Jean-Sébastien Laliberté.
Heureux de vous retrouver également.
Merci, puis bonne année, mon cher.
Pareillement.
Il y a beaucoup de rhume, hein?
Oui. Oui, moi, j'en fais partie.
Oui, oui, ça s'entend un peu, mais quand même, c'est pas dans la gorge. Et puis, mon cher Jean-Sébastien, le temps des fêtes s'est bien déroulé pour vous, à
Absolument.
Part le rhume?
Oui, 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 fort beau temps des fêtes, frisquet,
oui,
mais
pour ne
beau
pas
temps
dire glacial.
Oui. J'étais content d'avoir un poêle chez moi avec la chaleur du feu, c'était très réconfortant.
Ah oui, j'imagine. Alors, cher Jean-Sébastien, on continue nos bonnes habitudes dans les éphémérides. 8
Absolument.
Janvier, on vous écoute.
8 janvier, événement marquant ce 8 janvier. On débute en 1297. C'est la naissance de la dynastie Grimaldi, celle de l'actuelle famille régnante de la principauté de Monaco. Également, 8 janvier 1499, le roi Louis XII épouse la duchesse Anne de Bretagne. En 1679, l'explorateur René Robert Cavalier de La Salle atteint les chutes du Niagara. En 1815, à la Nouvelle-Orléans, victoire des Américains sur les Anglais. Le traité mettant fin à la guerre de 1812 était signé depuis 2 semaines, mais aucun des deux camps ne le savait, donc ils ont continué à se battre, même si la paix régnait depuis 2 semaines officiellement.
On dirait un sketch du bye-bye.
Je ne suis pas certain que ça arriverait aujourd'hui avec l'avancée qu'on a eue dans le monde des communications. Également, en 1889, le New-Yorkais Herman Hollerith fait breveter sa calculatrice électrique. Sa compagnie deviendra International Business Machine, c'est-à-dire IBM. 1914, première utilisation du radium pour soigner le cancer. Toujours un 8 janvier, en 1918, le président américain Woodrow Wilson présente au Congrès son plan en 14 points pour l'après-guerre. 1926, Ibn Saoud, le roi du Hejaz, nomme le royaume Arabie Saoudite. 1954, encore un 8 janvier, arrivé à Sarnia en Ontario du premier pétrole acheminé par oléoduc depuis l'Alberta. 1958, Bobby Fischer, âgé de 14 ans, remporte les championnats d'échecs des États-Unis. 1959, arrivée de Fidel Castro et de ses partisans à La Havane suite à leur victoire contre le dictateur Batista. 1959, donc même journée, Charles de Gaulle prête serment comme premier président de la 5e République. Nous parlons bien sûr de la France. 8 janvier 1986, à Port-au-Prince, affrontement entre étudiants et policiers, le dictateur Jean-Claude Duvalier sera chassé en février suivant. Donc, février 1986. 1991, la Pan American World Airways, fondée en 1919, invoque la loi de la faillite. En 2007, on s'en rappelle possiblement, la pétrolière Esso avait décidé de rebaptiser ses marchés express On the Run pour uniformiser le nom anglophone et elle revient sur sa décision en gardant le nom Marché Express pour ses dépanneurs au Québec.
Je m'en souviens plus du tout.
8 janvier 2015, ça, on s'en souvient absolument. La France décrète journée de deuil national en raison des attentats de Charlie Hebdo qui ont eu lieu le 7 janvier 2015. C'était donc il y a maintenant 3 ans. 1926, c'est le 8 janvier 1926, naissance de Jean Talon, premier intendant de la Nouvelle-France. 1928, le poète Gaston Miron, né à Sainte-Agathe-des-Monts. Et 1935, naissance du chanteur et guitariste Elvis Presley au Mississippi. Décès 8 janvier 1996 de l'ancien président français François Mitterrand, 1642 de l'astronome et physicien Galileo Galilei, et finalement 1324 décès de l'explorateur vénitien Marco Polo.
Oh, beaucoup de personnages d'exception sont nés le 8 janvier.
Mais qui sont nés ou qui sont décédés.
Oui, merci mon cher. À la une de la presse d'aujourd'hui, La Consécration, la série du réalisateur Jean-Marc Vallée, Big Little Lies, a remporté 4 Golden Globes lors d'une cérémonie qui s'est déroulée sous le signe de l'après hashtag MeToo ou MoClick, moi aussi. On parlait bien sûr des Golden Globes et on y reviendra. Exclusif, Plante s'attaque à l'insalubrité des logements. Affaire restauration, le Québec toujours champion des faillites. La chronique d'Hugo Dumas, justement en lien avec la cérémonie des Golden Globes, une soirée quasi parfaite. Et télévision, Fake Studio, un Montréalais magicien des décors. Exclusif, Valérie Plante s'attaque à l'insalubrité des logements. L'administration Plante-Doré profitera de la présentation du budget cette semaine pour remplir une autre de ses promesses électorales, soit de s'attaquer au problème d'insalubrité des logements. 1 million sera injecté dans la brigade d'inspecteurs en salubrité afin de pratiquement doubler leurs effectifs et ainsi augmenter les inspections réalisées, a appris la presse. Mercredi, la nouvelle administration Plante-Doré dévoilera son tout premier budget, alors qu'un trou de 358 millions avait été repéré au lendemain des élections. Projet Montréal a profité des 2 derniers mois pour combler ce manque à gagner. Et non seulement a-t-on réussi à équilibrer le budget, mais on a également dégagé une marge de manœuvre pour mettre de l'avant certains des principaux engagements électoraux. Ainsi, malgré des finances serrées, la mairesse Valérie Plante fera un important premier pas dans l'un des thèmes centraux de sa campagne, l'habitation. À une semaine du vote, elle s'était engagée à s'attaquer au problème d'insalubrité des logements. Pour y arriver, elle promettait d'embaucher de 20 à 30 inspecteurs supplémentaires afin de réaliser 100 000 inspections durant son premier mandat. Le budget présenté mercredi prévoira ainsi 1 million de plus au service de l'habitation afin de renforcer l'inspection des logements. La brigade de 17 inspecteurs travaillant actuellement pour la ville-centre verra ainsi ses effectifs augmenter de 13 employés. Cette équipe aidant les arrondissements à contrer les problèmes d'insalubrité comptera ainsi un total de 30 personnes. Dans l'entourage de la mairesse, on souligne qu'il s'agit ici d'un premier pas, d'autres embauches devant avoir lieu au cours des prochaines années. Alors, allons-y avec le vaccin contre la grippe efficace à 10%, point d'interrogation. C'est donc un texte de Jeyel Onel-Mézil. Le vaccin administré contre la grippe cette année pourrait n'avoir que 10% d'efficacité, estime un spécialiste des maladies infectieuses. Le docteur Karl Weiss, qui dirige le service des maladies infectieuses à l'hôpital Général Juif de Montréal, affirme que les scientifiques devraient revoir leur méthode de prévention contre le virus de la grippe en circulation pour mieux y faire face en période de haute propagation. La méthode utilisée actuellement pour déterminer la composition du vaccin est une très vieille méthode, affirme le docteur Weiss. La souche utilisée pour fabriquer le vaccin contre la grippe est déterminée au mois de février et mars, ce qui précède la saison de la grippe à partir du virus en circulation dans l'hémisphère sud. Cette méthode met beaucoup d'incertitudes sur l'efficacité du vaccin fabriqué qui est efficace contre le virus qu'il cible, estime le Dr Weiss. Si on se trompe dans le type de souche ou si elle change ou mute, on peut se retrouver dans une situation où l'efficacité du vaccin n'est pas bonne, dit le Dr Weiss. Pour la saison 2017-2018, les scientifiques ont préparé un vaccin en considérant que le virus qui serait en circulation dans l'hémisphère nord serait le H1N1. Selon Karl Weiss. Toutefois, il s'est avéré que le virus le plus répandu actuellement est le H3N2, ce qui pourrait expliquer une efficacité du vaccin potentiellement faible. À l'Institut national de santé publique du Québec, on préfère être prudent sur ce sujet. Nous recueillons actuellement les données, nous ne connaîtrons l'efficacité du vaccin que vers la fin janvier, indique le Dr Gaston Deserre de l'INSPQ dans un courriel envoyé à la presse, dont l'INSPQ, c'est l'Institut national de santé publique du Québec. Dans le métro sans pantalon, des Montréalais ont bravé le froid pour prendre part à la Journée mondiale sans pantalon hier. Les participants s'étaient donné rendez-vous à la station Sherbrooke pour faire un trajet de métro en montrant leurs jambes. La Journée mondiale sans pantalon, événement qui se veut surtout humoristique, a eu lieu hier dans de nombreuses villes du monde, dont Londres. Des participantes attendent le métro à New York. On voit ça dans le reportage photo de la presse où le premier No Pants Subway Ride a eu lieu en 2002. Au moins 18 personnes sont mortes au cours d'affrontements armés durant le week-end à Acapulco et Los Cabos, deux stations balnéaires de la côte pacifique du Mexique, s'ajoutant à une nouvelle vague de violence qui frappe les centres touristiques du pays. À Acapulco, un groupe de miliciens opposés à un projet de construction de barrage a attaqué hier matin à l'aube des habitants du village de La Concepción qui étaient réunis pour une fête. L'attaque à main armée a fait 8 morts, d'après un responsable de la sécurité pour la province. Les miliciens ont ensuite frappé une seconde fois, cette fois-ci visant les membres de l'armée et de la police déployés dans la commune, mais ont été repoussés par les forces de l'ordre qui ont abattu 3 miliciens. L'opération a permis l'arrestation de 30 de ces gardes communautaires ainsi que leur leader, Marco Antonio Suas de Guy Munoz, et la saisie de 580 doses de cannabis et de 7 armes, a déclaré le procureur de l'État, Xavier Olea. « 79 %, c'est la proportion des Français qui adhèrent à au moins l'une des grandes théories du complot, révèle une étude de l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès et l'Observatoire Conspiracy Watch publiée hier. Concernant les multiples théories qui circulent dans l'opinion et qui sont évoquées dans l'étude, des plus récentes aux plus anciennes, 55 % des Français approuvent l'idée que le ministère de la Santé est de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins, et 54 % sont d'accord avec l'affirmation que la CIA est impliquée dans l'assassinat du président John F. Kennedy à Dallas. En matière de terrorisme, 19 % des Français considèrent qu'à propos des attentats contre Charlie Hebdo et le magasin Hyper Cacher en janvier 2015, des zones d'ombre subsistent et qu'il n'est pas certain qu'ils aient été planifiés et réalisé uniquement par des terroristes islamistes, dont 27 % des moins de 35 ans et 30 % des 18-24 ans. Les petites et moyennes entreprises du Québec demandent au ministre des Finances, Carlos Letao, d'alléger leur fardeau fiscal lors du prochain budget. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, FCEI, qui les représente, souligne que leur fardeau fiscal est actuellement parmi les plus lourds au pays. La vice-présidente principale de la FCEI, Martine Hébert, rappelle que le Québec a terminé l'année 2017 avec une économie qui se porte très bien. Selon elle, il faut en profiter pour revoir la fiscalité des PME qui demeure, ajoute-t-elle, peu compétitive par rapport aux autres provinces. Travaux de la rue Sainte-Catherine, la mairesse se fait rassurante. Valérie Plante assure que les commerçants seront dédommagés si le chantier de construction mis en branle dès aujourd'hui dans la rue Sainte-Catherine importune leurs activités plus que prévu. Lors de son passage à l'accueil Bonneau pour le dîner des rois, la mairesse a par ailleurs affirmé que toutes les personnes qui vivent dans la rue à Montréal ont une place où dormir cet hiver. Avec le chantier de la rue Sainte-Catherine, les travaux de la ville toucheront une des artères commerciales et piétonnes les plus fréquentées de Montréal. Malgré l'ampleur du chantier qui s'installe à partir d'aujourd'hui, Valérie Plante soutient que son administration a les projets d'urbanisme d'ampleur dans son ADN. Nous sommes forts là-dedans et on a l'intention de le montrer, a-t-elle martelé. You know I can be fun. Sit home all alone. If you can't come around. Please, please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true.
baby, if I made you mad for something I might have said. Please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let us say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's still you I'm thinking of.
Joyeux anniversaire au King, né un 8 janvier. Don't be cruel, Elvis Presley.
À la une du Devoir, Golden Globe, Big Little Lies récompensé. On a une photo de Nicole Kidman tenant son trophée. Big Little Lies, réalisé par le Québécois Jean-Marc Vallée, s'est illustré dimanche à la 75e cérémonie des Golden Globes en étant élu meilleure mini-série de l'année. Nicole Kidman, en photo, a reçu le prix pour la meilleure actrice. La soirée a été hantée par le scandale impliquant Harvey Weinstein, le producteur accusé d'inconduite sexuelle par plus de 100 femmes. Lisez notre compte-rendu sur nos plateformes numériques. CPE et garderies subventionnées, les « bébés du printemps » entre guillemets, ECOP, Québec limite le nombre d'enfants de plus de 18 mois dans les pouponnières. 3 ans après les attentats, tous ne sont plus « Je suis Charlie ». France Gall, 1947-2018, les trois vies d'une battante, j'y reviendrai dans la portion culturelle. Trump poursuit son offensive contre le livre dont il fait l'objet alors que Bannon fait son mea culpa. Quand le doigt d'honneur remplace le discours. Et des copeaux de bois, plutôt que du sel pour déglacer les routes, point d'exclamation, non, plutôt point d'interrogation. Le gouvernement revient en arrière sur une mesure adoptée il y a quelques années visant à faciliter l'intégration des poupons dans les garderies subventionnées, les CPE. Ce changement, qui entrera en vigueur en avril prochain, inquiète grandement l'Association québécoise des centres de la petite enfance, AQCPE, et l'Association des garderies privées du Québec, AGPQ, qui parlent d'un recul important risquant d'avoir un impact sur les parents et de ramener le problème des bébés du printemps. Il faut savoir que Québec donne des subventions plus élevées pour les places en pouponnière car le ratio enfant-éducatrice y est plus élevé. Or, à l'époque, à partir du moment où un enfant atteignait l'âge des 18 mois, Québec finançait sa place comme s'il était dans un groupe ordinaire. Pourtant, dans les faits, celui-ci restait souvent dans le groupe des poupons car les groupes se forment en septembre et peu de places se libèrent avant l'année suivante quand les plus vieux partent pour l'école. Les enfants de plus de 18 mois se retrouvent donc coincés dans les groupes de poupons car il n'y a pas de place ailleurs, mais les subventions de Québec ne suivaient pas, ce qui représentait un déficit financier pour les garderies. Ces dernières n'avaient donc aucun intérêt à accepter les poupons qui allaient atteindre les 18 mois en cours d'année. Au ministère de la Famille, on explique ce changement aux règles d'occupation par une volonté d'offrir un service de meilleure qualité pour ces enfants. C'est le jour où tout avait basculé. 3 ans après le 7 janvier 2015, c'est dans la sobriété et la retenue que la France a rendu hommage aux victimes des attentats terroristes qui ont décimé la rédaction de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo et, 2 jours plus tard, les clients d'une épicerie juive. 17 morts en tout, dont on a voulu honorer dimanche la mémoire dans le silence et le recueillement. Pas de discours ni de rassemblement. Tels étaient les vœux des familles des victimes qui ont été respectés à la lettre. 3 ans plus tard, le temps n'est plus aux manifestations monstres comme celles qui, dès le 11 janvier, avaient fait descendre dans les rues des millions de Français, accompagnés d'une 50aine de chefs d'État et de gouvernement, à l'exception notable du président américain et des premiers ministres canadiens et québécois. Est-il normal qu'un journal soit contraint de vivre sous protection publique et privée, de travailler derrière des portes blindées, a demandé samedi le rédacteur en chef de Charlie Hebdo, Gérard Billard. Dans sa dernière livraison, titrée « 3 ans dans une boîte de conserve », Charlie Hebdo révèle que, depuis 3 ans, les menaces de mort n'ont jamais cessé contre sa rédaction et ses collaborateurs. Journalistes et dessinateurs ne peuvent plus se déplacer, ni partir en reportage sans une protection policière de tous les instants. Une protection qui coûte d'ailleurs à l'hebdomadaire près d'1,5 million d'euros par an. Les dédicaces et même la pièce tirée d'un texte posthume de Charb, lettre ouverte aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes, se déroulent sous protection policière. Cette année électorale, la centrale des syndicats du Québec, CSQ, s'attaque au bilan du gouvernement Couillard et promet une participation active aux prochaines élections. On le sait, l'austérité, ce n'est pas un projet de société, ça appauvrit tout le monde et c'est ça que nous a servi le gouvernement Couillard dans ses 3 dernières années de mandat, a soutenu la présidente de la CSQ, Louise Chabot, en point de presse dimanche matin. On n'en veut plus d'un gouvernement qui va nous imposer des sacrifices insensés pendant les 3/4 de son mandat, alors que dans la dernière année, il sort de son chapeau magique des lapins à coups de milliards de dollars. Après le froid polaire, un radoucissement des températures est prévu pour le Québec au cours de la journée de lundi. Ces températures plus clémentes, près du point de congélation, seront toutefois accompagnées de chutes de neige sur le sud-ouest du Québec, qui s'étendront graduellement vers l'est de la province. Jusqu'à mardi matin, demain matin, entre 10 et 15 cm de neige sont attendus. Entre-temps, plusieurs routes du Québec demeurent glacées en raison du froid. Les abrasifs s'avèrent peu efficaces et les vents sont parfois forts, causant de la poudrerie par endroits. Immigration, Ottawa se prépare à une nouvelle vague. Une décision américaine sur les Salvadoriens pourrait avoir des conséquences au Canada. Une décision imminente du gouvernement Trump sur le sort de quelques 200 000 Salvadoriens pourrait bousculer les plans du gouvernement canadien, qui s'est préparé à une possible nouvelle vague migratoire à sa frontière cet hiver. Le gouvernement américain est sur le point de décider s'il renouvellera ou non un statut de protection temporaire datant de 2001, qui a permis à des Salvadoriens de rester aux États-Unis sans craindre la déportation. Leur statut vient à échéance en mars et alors que les États-Unis ont mis fin au programme de protection temporaire de citoyens de plusieurs pays dans les derniers mois, il est possible que les Salvadoriens soient les prochains. À ce sujet, le statut n'est pas renouvelé?
En effet, c'est une nouvelle qui vient de tomber via la presse qui rapporte l'information du Washington Post. Le statut de protection temporaire des Salvadoriens ne sera pas renouvelé. Ils devront quitter d'ici septembre 2010.
Vous avez dit, Jean-Sébastien? Parfait, merci. Les hommes députés doivent contribuer à créer un changement de culture sur la colline du Parlement et à lutter contre les inconduites sexuelles, a déclaré le député néo-démocrate Nathan Cullen, qui a l'intention de collaborer avec ses collègues de tous les partis à ce sujet. Selon lui, l'écosystème d'un Parlement dans lequel se côtoient des employés, des lobbyistes et des élus crée un espace où peuvent se brouiller vie personnelle et vie professionnelle. La ministre de l'Environnement, Catherine McKenna, qui s'est publiquement insurgée contre ceux qui la surnommaient « Climate Barbie » sur les sites Internet, soutient que ces cas de harcèlement doivent être combattus au Parlement et dans tout milieu de travail. Selon elle, des mouvements comme « Mot-clic, moi aussi » ne seront efficaces que s'ils sont appuyés par des gestes concrets. La chef du Parti vert, Elizabeth May, estime qu'on pourra commencer à régler le problème lorsque les hommes députés dénonceront les comportements inacceptables dès qu'ils les connaîtront. La mer de Chine est le théâtre d'un important déversement pétrolier et d'une tragédie humaine, alors qu'un pétrolier transportant près d'un million de barils de pétrole brut a pris feu samedi soir après être entré en collision avec un navire chinois. Selon les informations diffusées par le ministère chinois des Transports, le pétrolier Sanxi a entièrement pris feu à la suite de la collision survenue à environ 300 km au large de Shanghai, en plein cœur de la mer de Chine orientale. Toujours selon les autorités chinoises, les 32 membres d'équipage du pétrolier sont portés disparus. Il faut dire que sur des images diffusées par la télévision d'État de Chine, on voyait dimanche le navire en proie à un intense brasier dominé par d'épaisses volutes de fumée noire s'élevant dans le ciel. Le pétrolier, appartenant à une entreprise iranienne mais battant pavillon du Panama, faisait route vers la Corée du Sud selon les données du site Marine Traffic. Vous écoutez l'émission Le quotidien des quotidiens, c'est Hélène Denis qui vous accompagne. On est ensemble jusqu'à 11h30. À venir, il y aura au cours de cette émission, bien sûr, des chansons dédiées à France Gall, pas dédiées, mais interprétées par France Gall, étant donné qu'elle nous a coûté à 70 ans hier matin. Je vous lirai d'ailleurs un article signé Sylvain Cormier un peu plus tard dans cette émission. À venir donc, la revue de presse du Journal de Montréal.
Partout, on garde. cette blessure en nous. Comme une éclaboussure de boue qui ne change rien, qui change tout.
France Gall et la pièce Évidemment.
À la une du Journal de Montréal, Jean-Marc Vallée, qui rafle 4 Golden Globes, on le voit tout près de Nicole Kidman. Une soirée magique, il a remporté ses prix pour la réalisation de Big Little Lies. Ses demandes de prestations d'invalidité refusées, trahies par les réseaux sociaux. Séries éliminatoires, l'espoir n'est pas perdu, c'est ce que dit Marc Bergevin. Et pas de vrai bilan avant le printemps, Marc Defoy. Finalement, 10 conseils pour tenir vos résolutions, Isabelle Huot. Ils ont mis les produits Labatt et Molson dehors de leur magasin. Tu dois te soumettre à eux, sinon ils veulent te vendre leurs produits à des prix beaucoup trop élevés, s'insurge Gabriel Nadeau, copropriétaire avec son père Luc de 4 établissements nommés Magasin Nadeau. Le duo père-fils n'aime pas du tout comment il est traité par les deux géants de la bière lorsque vient le temps de négocier des contrats. Pour signer un contrat, tu dois leur offrir un pourcentage de visibilité en magasin. Sans ça, rien ne se passe. Une fois que c'est signé, tu dois tout respecter à la lettre, mais ils contrôlent les prix, dénonce le jeune entrepreneur de 23 ans. Même si plusieurs clients se sont plaints qu'il n'y avait plus de produits Molson et Labatt, Luc et Gabriel Nadeau ne comptent pas revenir sur leur décision. « Oui, nous avons perdu des clients et des ventes, mais on n'a pas voulu passer sur nos convictions. On veut être maître chez nous », lance Gabriel Nadeau. Les paramédics de Montréal et Laval sont débordés par un nombre d'appels plus important que la normale en raison du froid extrême des derniers jours additionné au temps des fêtes selon leur syndicat. La situation est si préoccupante que le président du syndicat du préhospitalier, Régent Leclerc, appréhende des arrêts de travail dus au surmenage. Selon lui, le nombre d'appels est de 10 % à 20 % plus élevé qu'en temps normal. Le personnel est sous tension depuis les fêtes. C'est comme si on vivait un verglas depuis le 20 décembre, s'inquiète-t-il. Le froid extrême des derniers jours est la source principale de ces nombreux appels, selon le porte-parole d'Urgence Santé, Stéphane Smith. Le nombre élevé d'itinérants qui sont exposés au froid à Montréal, ainsi que les chutes et les accidents de voitures rendus courants par la chaussée glacée, tiennent les paramédics fort occupés, reconnaît-il. D'ailleurs, des paramédics auraient été empêchés de prendre leur pause repas pendant le temps des fêtes, selon M. Leclerc. Urgence santé, environ 1000 appels par tranche de 24 heures, plus de 900 paramédics couvrent les territoires de Laval et Montréal. Une panne fait craindre des retards à des paramédics. Le système de répartition est paralysé par une panne majeure depuis samedi soir. Une panne qui paralyse le système de répartition par ordinateur d'urgence santé depuis samedi oblige des paramédics à utiliser leur cellulaire personnel pour se guider et appeler la centrale. Les répartiteurs affectés au quartier général d'urgence santé ont dû être déplacés à toute vitesse dans un poste de relève samedi vers 23h45, d'où ils ont repris le travail manuellement. La situation pourrait revenir à la normale seulement aujourd'hui, en fin de journée, selon ce qu'a appris le journal. L'ex-présidente fondatrice d'un regroupement pour invalides a elle-même vu ses prestations de la Régie des rentes du Québec être refusées après qu'une enquête ait révélé à quel point elle était active sur les médias sociaux. En arrêt de travail depuis 2006, Jenny Hewitt de Roche-Beaucourt en Abitibi s'est vue refuser une demande de prestation d'invalidité à 3 reprises par la RRQ. En appel devant le tribunal administratif du Québec en septembre dernier, l'ex-enseignante s'est butée à Retraite Québec qui a présenté un accablant dossier de 34 pages dans lequel étaient comptabilisées plus de 500 publications de blog et Facebook de sa part. Une méthode de plus en plus utilisée selon les avocats consultés par le journal. Le rapport fait état de ses grosses journées à défendre les intérêts des invalides comme présidente fondatrice de l'AIAJ, l'assurance invalide, une affaire juridique, mais aussi en œuvrant comme artiste amateur à titre de photographe, auteur, dessinatrice et réalisation de coupes de cheveux avec motif. L'enquête de 41 mois a notamment révélé qu'elle travaille dans sa paperasse et ses appels de 7h à 17h30, selon une publication Facebook. Plus tard, elle affirme bosser comme une dingue de nombreuses heures par semaine, sans compter les heures et l'énergie qu'elle y met. Sa demande de prestation d'invalidité a donc été refusée par le juge. Dans une longue entrevue de 50 minutes où la dame ne s'est jamais plainte, Jenny Hewitt affirme qu'elle se doutait de faire l'objet de surveillance. « Je n'ai pas été piégée, je le savais. Sauf que je ne faisais pas du parapente, j'écrivais chez nous. Jamais je n'aurais cru que ça jouerait contre moi, lance-t-elle. » La place Belle de Laval a présenté de brèves excuses hier aux nombreux spectateurs qui ont dû attendre plus d'une heure dans le froid glacial avant d'assister au spectacle de The Killers samedi. Après être demeuré muet devant les questions du journal, l'établissement a publié hier soir sur Facebook une déclaration dans laquelle il se dit conscient du mécontentement créé par diverses situations opérationnelles. Alessandro Scola fait partie des fans de The Killers qui les attendaient à Laval samedi. Faire patienter des gens une heure et demie dehors quand il fait moins 35 degrés Celsius et que la peau gèle en quelques minutes, c'est dangereux, a-t-il souligné. La conjointe de M. Scola s'est évanouie après avoir attendu plus d'une heure dans la foule. Maxime Deguire, qui était aussi à la place Belle ce soir-là, raconte que les milliers de personnes venues assister au concert devaient converger vers 6 détecteurs de métaux. Et les détecteurs étaient directement dans l'entrée de l'amphithéâtre, donc c'est pour ça que les gens ne pouvaient pas attendre à l'intérieur, a-t-il indiqué. Une fois le concert débuté, la formation américaine a dû interrompre sa prestation à 3 reprises en raison de problèmes électriques, dont une fois pendant le rappel. La foule était électrisée, la salle ne l'était pas, a même commenté le groupe sur Instagram et sur Twitter. La formation a l'intention des députés fédéraux et de leurs employés afin de lutter contre le harcèlement, dont le harcèlement sexuel est carrément bidon, selon des experts. Je doute que cette formation réussisse à faire changer le comportement de ceux qui font du harcèlement sexuel, croit Stéphanie Tremblay, la porte-parole du regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, RQ-CALAC. Dans la foulée du mouvement Mot-Clic, moi aussi, l'ex-ministre de la Condition féminine, Patty Hajdu, rappelle que le harcèlement sexuel sévit partout, y compris dans les milieux politiques fédéraux. « Je crois qu'il existe encore énormément de travail pour régler le problème ici même au Parlement. Les employés de députés sont souvent de jeunes femmes. Il y a beaucoup d'événements où on offre l'alcool gratuit. La formation en question, une vidéo d'une heure disponible sur Internet, a été créée dans la foulée d'allégations d'inconduite sexuelle de la part de deux députés libéraux envers deux élus du NPD en 2014. En plus de rater sa cible, la séance de formation est boudée par les principaux intéressés. Depuis sa mise en ligne en décembre 2016, un peu plus de 123 députés sur 338 se sont identifiés comme ayant complété l'exercice. Et cela, malgré des rappels continus de la Chambre des communes, soutient la porte-parole Heather Bradley. Les habitants de la moitié du Canada auront la chance d'observer la conjugaison de trois phénomènes astronomiques bien particuliers à la fin du mois. Une superlune, une lune bleue et une éclipse lunaire. Le 31 janvier, les habitants de l'ouest de l'Amérique du Nord et des îles du Pacifique pourront observer l'éclipse totale lunaire alors que la Terre s'interposera entre la Lune et le Soleil. À cette occasion, la Lune va prendre une teinte rouge cendrée surnommée « lune de sang » en raison de la lumière du Soleil qui traversera l'atmosphère terrestre avant d'atteindre le satellite, a expliqué la NASA dans un communiqué. L'éclipse du 31 janvier sera visible lors du lever de la Lune. Les gens habitant l'est des États-Unis et du Canada, où l'éclipse sera partielle, vont devoir se lever tôt le matin pour la voir, a indiqué un porte-parole de la NASA. En parallèle, la Lune sera à son plus près de la Terre lors de l'éclipse. Lors d'une superlune, notre satellite apparaît jusqu'à 14 % plus gros et 30 % plus lumineux que lorsqu'il se trouve au point le plus éloigné de son orbite autour de la Terre. Enfin, la pleine lune sera la seconde du mois, après celle du 1er janvier, ce qui lui vaut le surnom de lune bleue. Les lunes bleues surviennent environ une fois aux 2 ans et demi, a précisé la NASA.
Sing now, muse, I won't be scared. She's wearing flowers, not snakes up in her hair tonight. And love, we've been around before. We washed up on the old shore, but it's new tonight. It's only light, she said, but we are liars to be free. We'll steal a light to see. The hour falls, we fall to dance. The sirens and the marching bands sing. It's nothing but chance tonight. A billion ones and many few, when everyone I never knew, they're here tonight. It's only light, we say, but we realize to be free. I'm lonely.
La formation australienne The Cat Empire avec la pièce Still the Light, un extrait de l'album du même nom paru en 2013.
C'est la portion des journaux régionaux et je commence avec le droit. Jacques Normand Sauvé, patinoire du Canal Rideau, un nouveau tronçon accessible. Un nouveau tronçon de 2 km de la patinoire du Canal Rideau entre le pont Pretoria et la rue Rideau près du Centre national des arts est à son tour accessible aux patineurs depuis dimanche matin. Ce nouveau segment porte à 7 km la longueur totale de la surface glacée désormais offerte aux patineurs. La 48e saison de la patinoire du Canal Rideau a été officiellement lancée vendredi matin 5 janvier avec l'ouverture du segment entre l'aire de repos Bronson, incluant toute la zone du lac Dow et le pont Pretoria. Une ouverture à cette date est plutôt hâtive. Des 10 dernières années, il n'y a qu'en 2009 où on a réussi à inaugurer la patinoire plus tôt dans la saison, soit le 1er janvier 2009, mais depuis qu'elle existe, les débuts de saison les plus hâtifs furent dans les deux cas, un 18 décembre en 1972 et 1981. L'année la plus tardive fut cependant 2002, quand la patinoire ouvrit le 2 février. La plus longue saison de patinage fut enregistrée en 1971-1972. Elle dura 90 jours. La saison la plus courte fut celle de 2015-2016 avec seulement 18 jours de patinage. La commission de la Capitale-Nationale, CCN, envisage d'ouvrir les deux autres sections encore fermées dès que la glace sera sécuritaire et que la météo le permettra. Déjà 7 km sur les 7,8 sont accessibles depuis dimanche, c'est dire que les zones manquantes ne sont guère très vastes. Il reste en fait la petite frange de 800 mètres près des écluses Hartwell et l'excroissance du canal qu'est le ruisseau Patterson. Dans le soleil, une exclusivité, Annie Morin. L'Association des employeurs maritimes, AEM, s'oppose formellement à la construction d'un terminal de conteneurs sur un éventuel agrandissement du port de Québec dans le secteur de Beauport. Ses membres contestent l'avantage concurrentiel de la profondeur d'eau et affichent clairement leur préférence pour les installations de Montréal. Le soleil a obtenu copie d'une lettre transmise par l'Association des employeurs maritimes au premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et au ministre fédéral des Transports, Marc Garneau. La missive a été transmise le 21 décembre, soit 9 jours après que l'administration portuaire de Québec, APQ, eut fait part de son intention d'établir un terminal de conteneurs de classe mondiale sur le site de Beauport 2020, afin de faire de Québec un pôle logistique maritime continental. La lettre est signée par des entreprises spécialisées dans le transport de conteneurs, dont les multinationales MCS et Hapag-Lloyd, ainsi que des opérateurs des terminaux de conteneurs du port de Montréal, notamment Société Terminaux Montréal Gateway et Logistec. Les signataires représentent quelque 80 % du marché du transport des marchandises conteneurisées sur le fleuve Saint-Laurent, est-il précisé. Dans le document, l'AEM s'applique à démontrer l'argumentaire selon lequel l'avenir du transport des marchandises conteneurisées passera par Québec, dans le futur, en raison principalement de l'augmentation de la taille des porte-conteneurs. Ceux-ci auraient besoin de 15 mètres de profondeur d'eau, ce qu'offre naturellement Québec, contre 11,3 mètres à Montréal. La profondeur d'eau n'est qu'une des multiples composantes constituant les avantages concurrentiels d'un port, et c'est ce que le port de Québec n'a malheureusement pas saisi, peut-on lire. Les transports et les opérateurs mettent de l'avant la qualité des infrastructures portuaires montréalaises, l'intermodalité avec le chemin de fer et les autoroutes, ainsi que la proximité des grands marchés de consommation. Ils font valoir que la taille des navires est tout simplement adaptée à cette réalité. Les transporteurs maritimes partenaires du port disposent également de flottes de navires de plus grande qualité, capacité, dis-je bien, mais ceux-ci desservent habituellement des escales multiples dans divers ports de mer. Il s'agit de routes qui n'incluent pas et qui n'incluront jamais le port de Montréal, pas plus que tout autre port sur le fleuve Saint-Laurent en raison du détour statut l'AEM. Dans le Nouvelliste, Marc Rochette, depuis un an, la région Mauricie-Rive-Sud a vu sa population augmenter globalement de 2524 habitants, même si le Haut-Saint-Laurent, le Haut-Saint-Maurice est la seule sous-région à afficher un recul de 118 citoyens. Voilà ce que le décret gouvernemental concernant la population des municipalités locales, des villages nordiques et des arrondissements pour l'année 2018 permet d'apprendre. La ville de Trois-Rivières a toujours le vent dans les voiles, avec un bond de plus d'un millier de personnes pour dépasser le chiffre magique de 137 000. C'est une bonne nouvelle parce qu'auparavant, les gens quittaient la région, ce qui n'était pas normal. C'est pour ça qu'en 2002, j'ai dit qu'il fallait travailler sur la diversification économique tout en investissant dans les équipements sportifs et culturels. C'est beau attirer des entreprises, mais la nouvelle génération recherche un emploi et une qualité de vie. Il faut continuer dans cette direction, a commenté le maire Yves Lévesque. Celui-ci ne manque pas de souligner la vigueur de la construction à Trois-Rivières. Dans le quotidien, Dominique Gobeil, surprenante vie hivernale. Des chercheurs de l'Université du Québec à Chicoutimi ont découvert une vie animale étonnamment active et colorée sous la glace d'un lac saguenéen, un exemple que la saison hivernale a bien des sujets à dévoiler aux écologistes aquatiques. Alors, étudiant au doctorat, Guillaume Grosbois a prélevé à l'hiver 2017 des échantillons au lac Simon-Couche dans la forêt d'enseignement et de recherche de Lucac à l'entrée de la réserve faunique des Laurentides. Il était supervisé par la professeure Mila Rossio. Ils ont pu observer deux espèces de zooplancton à l'éclatante couleur rouge, une caractéristique surprenante d'un point de vue biologique. Leurs travaux sur ces copépodes ont été publiés en décembre dernier dans la revue Écologie de la Société américaine d'écologie qui compte environ 9000 membres. On était très content d'être publié là, car on veut transmettre une idée générale au plus grand nombre de gens possible. Qu'est-ce qui se passe sous la glace? Plusieurs pensent que tout meurt ou entre en dormance. On a vu que ce n'est pas le cas. Ça bouge beaucoup et c'est très intéressant, explique Guillaume Grosbois en entrevue au quotidien. Le premier élément qui a surpris les chercheurs, c'est l'activité du zooplancton. Ce minuscule crustacé, souvent presque transparent, nourrit notamment les poissons et tire son énergie des algues. Or, pendant l'hiver, le couvert de glace et de neige laisse passer très peu de lumière dans l'eau, ce qui empêche les organismes faisant de la photosynthèse de fonctionner. Les copépodes se retrouvent donc sans nourriture, pourtant, ils demeurent actifs. Hélène Denis, merci d'écouter l'émission Le quotidien des quotidiens. Vous êtes à Canal M de Vues et Voix. Je vous retrouve après la chanson de France Gall avec une portion consacrée à cette chanteuse trop tôt disparue.
Je suis seule et que je peux rêver.
que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout bas une déclaration. Ma déclaration. Quand je suis seule, que je peux inventer, que tu es là tout près de moi. Je peux m'imaginer tout bas une déclaration. Ma déclaration. Juste deux ou trois mots d'amour pour te parler de nous. Deux ou trois mots de tous les jours, c'est tout. Je ne pourrais jamais te dire tout ça. Je voudrais tant, mais je n'oserais pas. J'aime mieux mettre dans ma chanson une déclaration. Juste deux ou trois mots d'amour pour te parler de nous. Deux ou trois mots de tous les jours, c'est tout. Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout. Ma déclaration. Je t'aime quand tu es près de moi. Je t'aime quand tu n'es pas là. Je pense à toi. Je t'aime quand tu souris.
Une déclaration. Ma déclaration.
Je veux des souvenirs avec toi. Des images avec toi, des voyages avec toi. Je me sens bien quand tu es là.
Une déclaration. Ma déclaration.
Je t'aime quand tu es triste, que tu ne dis rien. Je t'aime quand je te parle et que tu n'écoutes pas. Je me sens bien quand tu es là.
France Gall et la déclaration d'amour.
Alors, je vais vous lire le texte France Gall 1947-2018, les trois vies de France Gall, le parcours morcelé d'une interprète française bien aimée, c'est Sylvain Cormier dans Le Devoir d'aujourd'hui. Ça se calcule par trois. La mort en trois temps, la carrière en trois temps, l'amour en trois temps. La mort de France Gall à 70 ans dimanche matin à l'hôpital de Neuilly était la troisième étape de son combat contre le cancer du sein. Il y a celui qu'elle vint au début des années 1990 et puis les deux récentes récidives, celle de 2015 et celle qui vient de l'emporter. Elle aura mené trois carrières comme on vit trois vies. Elle fut la plus récalcitrante idole yéyé des années 1960, la poupée de cire, poupée de son, de l'opportuniste, mais génial, Gainsbourg, ballotté dans le métier jusqu'à en être dégoûté. Et puis, elle et Michel Berger se retrouvèrent, se trouvèrent, et leur couple sera fusionnel jusque dans la création, l'auteur-compositeur lui donnant des mélodies et des mots faits pour exprimer ce qu'il voulait vraiment exprimer, de « si, maman » et à « elle-là, elle-là ». Et à la suite de l'abrupt décès de celui-ci, terrassé à 44 ans par une crise cardiaque, elle deviendra à plein temps la gardienne de sa mémoire et ses chansons jusqu'à la comédie musicale « Résiste » qu'elle coécrit avec son compagnon Brooke David, présentée en 2015 et 2016 à Paris et à travers l'Europe francophone. Notez, Berger meurt en 1992 et le cancer est diagnostiqué l'année d'après. Avant que Michel Berger ne lui écrive en 1974 la déclaration d'amour, sans doute le plus émouvant message personnel écrit par un auteur-compositeur amoureux à l'interprète de son cœur, Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras, je rêve que je te fais tout bas. Une déclaration. France Gall aura eu deux notables liaisons qui donnèrent aussi lieu à des chansons, Claude François, comme d'habitude, et Julien Clerc, Souffrir par toi n'est pas souffrir. Elle parlera peu ou pas de ses amours d'avant le grand amour, de la même façon qu'elle évitera le plus souvent d'évoquer ses années « Salut les copains » et ne chantera presque plus jamais sur scène les succès très mythifiés de cette période où elle ne décidait de rien. Berger, encore lui, dira tout ce qu'elle ressent dans la chanson « Tout pour la musique » et il répète ses mots, sans suite et sans logique, comme on dit des mots magiques, « Tout pour la musique ». Qui a eu cette idée folle? C'est Robert Gall, père d'Isabelle, son véritable prénom, qui lui écrit « Sacré Charlemagne » en 1964, « Ritournelle imparable », qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école. Elle a 17 ans, on la joue fillette, elle pose avec des figurines en bois sur le Super 45 Tours, où il y a aussi Nounour et Au clair de la lune. Le contraste sera d'autant plus frappant lorsqu'elle remporte le concours de l'Eurovision l'année d'après, où elle défend cette chanson où Serge Gainsbourg tourne en dérision la fabrication des midinettes du yéyé, tout en investissant le marché plus que lucratif, poupée de cire, poupée de son. Plus tard, cela donnera les sucettes, sommet de perversité, où Gainsbourg lui fait chanter « Lorsqu'elle n'a sur sa langue que le petit bâton, elle prend ses jambes à son corps et retourne au drugstore. » Il faut voir le Serge triomphant, susurrant les sucettes en duo avec France pour l'émission de fin d'année 1966 « Dents de lait, dents de loup ». En entrevue pour Le Devoir, elle m'avait juré n'avoir compris le second degré que bien après et qu'elle s'était sentie trahie, presque violée. On comprend son mutisme et son refus d'écrire une autobiographie. De toute cette période, elle n'aura d'affection que pour ses incursions jazzy. Le cœur qui jazz, jazz à gogo. Il n'empêche que ses disques d'alors sont devenus cultissimes et que la France Gall de « Laisse tomber les filles »,« Baby Pop »,« Teeny Weeny Whoopie », »,« Nous ne sommes pas des anges », »,« Chanson pour que tu m'aimes un peu », ainsi que l'indicatif de l'émission « Dim Dam Dum » fait aujourd'hui la joie des amateurs de « Swinging 60s French Yeah Yeah Girls » un peu partout dans le monde. À la fin des années 1960, il n'y avait même plus Gainsbourg pour lui pondre des tubes. Sur l'étiquette « La compagnie », elle enregistre des bêtises, « L'orage »,« La torpedo bleue ». On ne retient comme tout petit qu'elle vient chanter en spectacle au Québec en 1969, un séjour pas très heureux. Il faudra sa participation à la première version de Starmania, l'opéra pop de Luc Plamondon et Michel Berger, pour que le contact se renoue. Le couple Gall-Berger aura même son pied-à-terre, à Outremont, pas loin de chez Plamondon. C'est le parolier qui répondit au téléphone et lui passa l'appel lorsque je l'interviewai au milieu des années 1980 pour CIBL. C'était ma toute première entrevue, j'en bégayais. Elle ne se produisit plus jamais sur scène chez nous après 1969. Je la vis à Paris, salle Pleyel, grâce à Hélène Morin de chez Warner. Son spectacle lui ressemblait. Les chansons de son Michel Berger étaient les siennes. Et elle inspirait toute une génération de jeunes femmes. Diego libre dans sa tête, il jouait du piano debout. Ella, Ella, Cézanne Pain, musique, résiste, débranche, donner pour donner, son duo avec Elton John. La poignante, évidemment, écrite en souvenir de Daniel Balavoine, tant d'autres titres de son vrai répertoire. La chanson gagnera encore en pertinence en 1997 quand sa fille Pauline, un de ses deux enfants, sera emportée par une maladie génétique. Il y a comme un goût amer en nous, comme un goût de poussière dans tout, et la colère qui nous suit partout, évidemment. Évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant, mais pas comme avant.
Ah!
Big Little Lies sort grande gagnante. La série signée par Jean-Marc Vallée remporte 4 Golden Globes. C'est dans le Journal de Montréal, mais c'est dans partout, dans les journaux montréalais, mais aussi les journaux américains, européens, etc. Marc-André Lemieux signe cet article au cours d'une cérémonie des Golden Globes socialement engagée qui s'est transformée en vibrante célébration des femmes. Big Little Lies de Jean-Marc Vallée a répété son exploit des Emmy en survolant la compétition. La série événement du réalisateur québécois a dominé chacune des catégories dans lesquelles elle était nommée, amassant 4 trophées. Le travail de Vallée a été salué à plusieurs reprises durant la soirée, notamment par David E. Kelly, sur scène pour accepter le prix de meilleure mini-série. Le créateur de l'adaptation du roman de Liane Moriarty a déclaré « Cet homme, Jean-Marc Vallée, a réalisé chacun des épisodes. » Il y a mis tout son cœur, il a élevé chaque page, chaque performance. Nous sommes extrêmement reconnaissants. Sans surprise, Nicole Kidman a été sacrée meilleure actrice dans une mini-série pour son portrait d'une femme victime de violences conjugales. Comme elle l'avait fait 4 mois plus tôt aux Emmy Awards, pas de H, la star australienne a vanté les mérites de Vallée. Je parle au nom des 5 actrices de Big Little Lies. Nous ne serions pas ici ce soir. Et la série ne serait pas aussi bonne qu'elle l'est sans le brio de Jean-Marc Vallée et David E. Kelly. En clin d'œil au thème non officiel du gala, l'égalité homme-femme, la lauréate a également exprimé un souhait qui semble avoir résonné fort au Beverly Hilton Hotel, où était réuni le gratin hollywoodien. J'espère qu'avec les histoires que nous racontons, nous pouvons provoquer un changement. Gardons la conversation vivante. Big Little Lies, Petit secret, grand mensonge, a également dominé les catégories réservées aux acteurs de soutien grâce au jeu d'Alexander Skarsgård et de Laura Dern, qui a qualifié Jean-Marc Vallée de « leader sans peur ». Ailleurs, en télévision, 2 autres productions articulées autour de personnages féminins, « The Handmaid's Tale »,« La servante écarlate » et « The Marvelous Mrs. Maisel » ont triomphé. En cinéma, les films « Three Billboards Outside Ebbing, Missouri » et « Lady Bird » ont respectivement été couronnés meilleur drame et meilleure comédie. Les scandales d'inconduite sexuelle qui secouent Hollywood depuis cet automne ont teinté ses 75e Golden Globes. Seth Meyers a d'ailleurs livré un discours fortement politisé en ouverture. Le ton était moins frivole qu'au cours des dernières années. L'animateur et l'humoriste a frappé fort à quelques reprises, notamment quand il s'est attaqué à Harvey Weinstein, le roi déchu de Hollywood contre qui pèse une tonne d'accusations d'agression sexuelle. Harvey Weinstein n'est pas ici ce soir, mais il sera de retour dans 20 ans, quand il deviendra la première personne à être huée durant le segment In Memoriam, a déclaré Meyers devant les rires étouffés du parterre. D'Oprah Winfrey à Frances McDormand, en passant par Allison Janney et Elizabeth Moss, les gagnantes ont lancé des messages durant toute la soirée. Le gala a été précédé d'un tapis rouge hors norme. Comme prévu, les stars s'étaient toutes habillées en noir pour protester contre les violences sexuelles, manifester leur solidarité envers les victimes des prédateurs et générer une discussion. Plusieurs actrices étaient également accompagnées d'activistes. Finaliste pour The Post, Meryl Streep a défilé aux côtés d'Ai Jane Poe, une militante reconnue qui dirige l'Alliance nationale des travailleurs domestiques. Pour une rare fois, les questions des animateurs de NBC n'étaient pas articulées autour des tenues des actrices, mais plutôt autour du mouvement Time's Up, lancé au début du mois par plus de 300 femmes d'Hollywood pour en finir avec le harcèlement sexuel.
Je t'aime, le sort en est jeté, et j'en ferai le thème de ma réalité. Je donnerai mon corps à des sciences nouvelles, je déjouerai la mort, je viendrai qu'un. Tu m'appelles. Je t'aime, je t'aime. Et déjà cet amour érigé en système, enflamme les discours. Et en bas dans la rue, c'est la révolution que tombent les statues et que résonne ton prénom.
Poésie de Philippe B. avec la pièce Je t'aime, je t'aime. C'est extrait de son plus récent album La Grande Nuit Vidéo.
Bergevin n'abandonne pas. Le directeur général du Tricolore croit l'équipe capable d'accéder aux séries éliminatoires. C'est un texte de Guillaume Lefrançois que je vais vous lire pour amorcer ce segment libre. Malgré l'absence d'un vrai centre numéro 1, malgré un capitaine qui se cherche, malgré un défenseur numéro 1 à la santé incertaine, Marc Bergevin a insisté hier sur le fait qu'il ne baissait pas les bras en vue d'une participation aux séries éliminatoires. C'est le message que le directeur général a martelé dans un point de presse d'une trentaine de minutes tenu avant le duel entre les Canucks de... entre les Canucks de Vancouver et le Canadien hier soir. Bergevin s'adressait aux médias à l'amorce de la deuxième moitié de saison de son équipe. Avant d'affronter les Canucks, le tricolore se retrouvait à 8 points d'un groupe de 3 équipes qui sont à égalité au dernier rang, donnant accès aux séries. Devant cet écart, le temps n'est-il pas venu de faire son deuil de la présente saison et de penser à l'avenir? Je ne peux pas faire d'hypothèse. Mais mon message aux joueurs, c'est que la saison n'est pas terminée. On a beaucoup de pain sur la planche et on doit être plus constant dans nos efforts. Je prendrai les décisions nécessaires en temps et lieu, en voyant où est rendue l'équipe, a expliqué le directeur général. Cela dit, au-delà des belles paroles, le DG n'avait pas des tonnes de messages d'espoir à livrer, surtout si on s'attarde aux réponses précises qu'il a données sur ses joueurs. D'abord, au sujet de Jonathan Drouin, dont l'adaptation au centre ne se passe pas comme prévu. Le Québécois n'a que 19 points en 37 matchs, une récolte évidemment inférieure à ce que le directeur général espérait quand il a sacrifié son meilleur espoir, soit Mikhaï Sergachev. Mais en l'absence d'un vrai premier centre, l'équipe n'a d'autre choix que de placer tous ses espoirs en Drouin. « Dans un monde idéal, c'est un ailier », a répondu Bergevin. « Mais pour le moment, c'est au centre qu'il peut le plus aider l'équipe. Ce n'est pas sa position idéale, on en est conscient. Mais ça ne peut pas lui faire mal. Le jour où il retournera à l'aile, il sera le joueur qu'il est capable d'être. » Ensuite, au sujet de Max Pacioretty, le capitaine du CH a conclu sa première moitié de saison avec seulement 9 buts. Cette année, tout ce qui pouvait aller mal pour Pacioretty a mal été, a reconnu Bergevin. Quand un marqueur ne marque pas, souvent, c'est la nature humaine. Tu triches un peu, et en trichant, t'exposes d'autres facettes de ton jeu, et c'est négatif. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas. En ce moment, il se cherche. C'est un gars qui fonctionne par séquence. Dans les 10 prochains matchs, il peut en marquer 6. Marc Bergevin au sujet de Max Pacioretty. Donc, je viens de vous lire une de ses citations. Enfin, au sujet de Shea Weber, Le grand défenseur est toujours incommodé par une blessure à un pied et devrait en avoir au moins jusqu'au match des étoiles. Avec une ligne bleue à la profondeur douteuse, c'est de bien mauvais augure pour les prochaines semaines. Le tricolore a d'ailleurs annoncé samedi que Victor Mété allait être rapatrié à Montréal et non pas renvoyé dans les rangs juniors maintenant que le championnat du monde des moins de 20 ans est terminé. C'est certain que Chie va nous manquer pour un bon bout de temps, admis Bergevin. Ça rentre dans l'équation. Et de ce que j'ai vu du jeune à Buffalo, Meat peut nous aider. Alors, ça s'écrit M-E-T-E, Mété ou Meat. On regarde à court et à long terme. On sera patient, on va lui donner tout le temps de glace possible pour qu'il se développe. Voilà qui n'est pas le langage d'un DG qui s'attend à voir son équipe se battre pour une place en série. Bergevin rencontrait les médias pour la première fois depuis les propos d'Andrei Markov au Journal de Montréal. Le défenseur russe a affirmé qu'il ne s'était pas senti respecté dans le processus de négociation de l'été dernier, processus au bout duquel le vétéran a opté pour un retour à la maison, en KHL. Bergevin a reconnu que le départ du 79 avait fait mal à son équipe, dont la brigade défensive peine à relancer l'attaque. Andrei nous manque, a-t-il avoué. Son départ est d'autant plus inexplicable que l'équipe a amorcé la saison avec un coussin de 8 millions de dollars sous le plafond salarial, coussin qui demeure toujours inutilisé. C'était la première fois dans ma carrière de DG que je négociais avec un joueur. Et Andrei, c'est une bonne personne, mais un homme de peu de mots. Donc, c'est difficile de communiquer. C'est plate qu'il ait senti ça, parce que notre organisation le respecte. Mais s'il avait eu un agent, il n'aurait peut-être pas senti la même chose. L'homme de la situation, point d'interrogation? En fait, les rares paroles encourageantes de Bergevin ont été prononcées quand il s'est fait demander s'il incarnait toujours l'espoir pour une organisation qui n'est visiblement pas sur la pente ascendante. On a des joueurs qui poussent, qui s'améliorent. Arturi Lekkonen, je vois beaucoup de petits détails dans son jeu qui aident l'équipe. Charles Hudon, il a eu des hauts et des bas, mais il a montré des bons côtés. Il pousse. Nikita Sherbak, depuis sa blessure, va dans la bonne direction. Meat ou Mutt, Charlie Lindgren. Beaucoup de jeunes poussent, mais la parité est tellement forte, c'est difficile de faire des promesses. Bergevin a également donné l'exemple du Lightning de Tampa Bay, une équipe qui n'a pas fait grand-chose cet été, mais qui compte cette saison sur un Steven Stamkos en santé. L'exemple n'est pas bête, mais le Lightning compte sur un groupe d'attaquants au talent hors du commun, mené par les centres Stamkos et Braden Point, avec le très talentueux Yannick Gourde, aux commandes du troisième trio. Le genre de centre que Bergevin n'a justement pas, dans une ligue où la ligne de centre est la colonne vertébrale d'une équipe, voilà une bien mauvaise nouvelle. La presse section pause parce que la politique commence dès l'école. La philosophe française Myriam Revaud-Dallone publie « La politique expliquée à nos enfants », un livre nécessaire qui vise à faire comprendre la démocratie aux enfants, mais aussi aux adultes, entrevue menée par Olivia Lévy. Vous écrivez qu'on a souvent pensé qu'il ne fallait pas parler de politique lors des réunions de famille. Pourquoi? Réponse, il y a une tendance à ne pas parler de politique en famille car c'est un sujet de désaccord. Je pense que c'est une idée fausse car les enfants sont confrontés à des problèmes politiques dès qu'ils entrent en contact avec les autres. Quand ils vont à l'école, ils sont confrontés à la question de l'égalité, de la justice, à la question des chefs, de la domination, de l'autorité, de l'espace public. Il est important de leur permettre d'accéder à ce qu'est véritablement la politique au lieu de faire comme si c'était un domaine réservé aux adultes et en plus un sujet qu'il faut éviter. J'ai écrit ce livre pour les enfants et pour les adolescents afin de leur faire comprendre un certain nombre de problèmes. Quel est le sens premier de la politique? Il faut revenir au sens premier du mot et de la chose. Étymologiquement, le mot politique vient de poli, en grec la cité, ou polis avec un S. Ce sont les Grecs qui ont inventé la politique et une manière de penser la politique en agissant ensemble. Les enfants agissent et vivent ensemble dans la cité. La politique ne se réduit pas à la conquête et à l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire le rapport entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent. La politique est quelque chose de plus large que le pouvoir. C'est le fait de participer collectivement aux affaires de la cité. Il faut aussi montrer que la politique est l'affaire de tous les citoyens et que c'est l'existence même de la démocratie. La politique inclut les préoccupations des citoyens, la santé, l'éducation, le logement, la culture. La priorité qui est donnée à ces questions n'est pas la même dans toutes les sociétés. Ce sont des choix et des orientations fondamentales qu'il faut définir à l'avance. Quelle est la première question qui préoccupe les enfants? Lors de la rédaction de ce livre, mes petites filles étaient âgées de 8 et 14 ans. La pertinence de leurs questions m'a frappée. La première question que la plus petite m'a posée, c'est « Si on peut mener sa propre vie seule, pourquoi avons-nous besoin de chefs? » Ce qui m'a confortée dans l'idée que, spontanément, il y avait une confusion sur le fait de réduire la politique au pouvoir. L'aînée avait des questions plus structurées sur la séparation des pouvoirs, le charisme, sur le succès des hommes et femmes politiques, sur le contenu de leur programme, leur image. En France, lors de la dernière élection présidentielle, ça a été un moment de haute intensité politique. Les enfants entendent les conversations des adultes, regardent la télévision et sont conscients qu'il y a un certain nombre de problèmes dont il faut parler. La démocratie est-elle fragile? Oui, elle est extrêmement fragile parce que c'est quelque chose de très difficile. Ce n'est pas simplement le fait qu'il existe des modes d'organisation fondamentaux avec une séparation des pouvoirs, un pouvoir exécutif, législatif, une autorité judiciaire. Il est très important que ces instances fonctionnent correctement. Il y a une crise de confiance envers les politiques et la démocratie. Tout à fait. Il y a une certaine défiance à l'égard d'un certain personnel politique qui n'est pas toujours à la hauteur. Une défiance à l'égard de la représentation de la façon dont les citoyens se sentent représentés. La démocratie est-elle en danger? Il y a des phénomènes comme la mondialisation qui font qu'un certain nombre de gens se sentent abandonnés et laissés pour compte. Alors voilà, je vous ai lu une partie de l'entrevue accordée à Myriam Revault-Dallone, menée par Olivier Lévy dans la presse d'aujourd'hui à propos du livre « La politique expliquée à nos enfants » aux éditions du Seuil. Ici Hélène Denis, un grand merci d'avoir été à l'écoute. Merci en passant à François Brodeur qui était là la semaine passée pour me remplacer. Merci François, bonne année. Merci à Jean-Sébastien Laliberté. Je vous retrouve à l'émission Les Paractualités.